Radio Rageuse.
La webuleuse d'émissions de radio féministe.
Mets le cap sur Mars.
Du 1er au 31 mars,
c'est Live on Mars. Un mois de web radio féministe.
Avec des émissions,
de la musique,
des plateaux en direct
et plein d'autres choses.
7 jours sur 7,
24 heures sur 24,
tu pourras te connecter sur radiorageuse.net.
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 Pour un voyage sur la planète féministe.
Bonjour tout le monde, on est toujours en direct de la DAR, du coup rue d'Aubagne, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez venir nous écouter en direct, ou mouillez-vous, allez sur la ZOF, la zone d'occupation féministe au Vieux-Port. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Du coup, pour ce second plateau radio, on va plutôt parler des luttes féministes, on a invité différentes collectifs, associations, organisations. On va d'abord faire un petit tour de si vous avez envie de vous présenter. Anna, je ne sais pas si tu veux commencer.
Petit problème de micro, on est de retour.
Hop, faux départ. Alors du coup, je m'appelle Anna, moi je suis militante à Du Pain et des Roses. Du Pain et des Roses, c'est un collectif féministe du coup, de lutte des classes, révolutionnaire, internationaliste, qui est animé par des militants de Révolution Permanente. Je rajoute une petite aparté du coup, parce que tout à l'heure du coup au plateau d'avant l'animatrice elle parlait du coup par exemple de Mégolan, et du coup en fait je voulais ajouter que Révolution Permanente c'est un parti politique mais aussi un journal, du coup n'hésitez pas en fait à consulter, c'est en libre accès sur internet, et voilà, on a une section genre et sexualité qui traite en fait de toutes les questions féministes, et notamment du coup on a fait un article sur les déclarations honteuses de Mégolan qui se dit fière du génocide et qui voilà, revendique la politique israélienne qui a fait plus de 30 000 morts. Sinon, pour faire un petit historique un peu du collectif, du coup, c'est un collectif qui est né en Argentine il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Tout part en fait de l'initiative de militants du PTS, du coup, qui est le parti frère de Révolution Permanente en Argentine, qui est le parti qui est un peu à l'avant-garde de la lutte contre Milei maintenant en Argentine. Et du coup, voilà, en fait, c'est des militants qui ont poussé le mouvement féministe à s'engager, à soutenir, d'un point de vue féministe, une lutte de femmes, une lutte. C'était une grève dans une usine textile, une usine qui était sous occupation ouvrière. Voilà, le patron s'était barré, mais du coup, les ouvrières ont continué de faire tourner cette usine. Et donc, voilà, le collectif est né de ça. Du coup, à la fois de militants de ce parti et de militantes qui étaient en dehors de ce parti qui les ont rejoints. C'est du coup un collectif qui a beaucoup fait ses preuves en Argentine autour de la lutte pour l'avortement dans la Marée Verte. Et en France, c'est un collectif qui a été fondé en 2017, qui est pareil, qui est né en fait autour d'une grève. Une grève de travailleuses et de travailleurs du nettoyage. Du coup, c'était des travailleurs qui se sont mis en grève à la fois contre la SNCF et contre l'entreprise sous-traitante Honnête. Voilà, une grève vraiment exemplaire de 45 jours qui a été victorieuse. Et le collectif, du coup, est né de ça, de lutte et de grève de travailleurs et de travailleuses.
Okay, super, merci beaucoup.
Non, ça marche pas. Ok, merci. Lily, du collectif Afrofem, est-ce que tu as envie de te présenter et nous présenter un peu ton collectif?
Je ne sais pas si ça fout. Ouais, c'est bon. Bonjour tout le monde et merci de l'invitation d'ailleurs. Donc moi je suis Lily, je suis fondatrice du collectif Afrofem Marseille. Donc c'est un collectif queer afroféministe qui s'attaque aux racines de tous les systèmes de domination, donc le racisme, le sexisme, la violence policière, le capitalisme. Donc ce collectif j'ai monté il y a bientôt 4 ans, c'était en 2020. C'était suite à l'appel d'Assa Traoré en fait, et qui faisait suite à l'assassinat de George Floyd, donc toutes ces manifs racistes. Et il y avait des manifs partout en France, sauf à Marseille. Et moi et une autre personne civile, on s'est dit qu'on allait faire une manif qui a rassemblé des milliers de personnes. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande d'afroféminisme au niveau de parler des questions antiracistes, que ce soit dans tous les milieux. Donc voilà pourquoi je l'ai monté. Pour faire rapide, on a fait au début, j'avais plutôt des actions de collage qui étaient plutôt des actions de collage en fait qui dénonçaient le racisme, la misogynie noire, la transmisogynie noire. Après, on a fait pas mal de racisme sur de collage sur le racisme environnemental. C'est pas la, la victime qui devient bourreau. C'est plutôt ça. Donc, pour dénoncer le scandale du chlordécone aux Antilles. Et donc là, actuellement, moi, je suis pas mal impliquée avec d'autres collectifs antiracistes, notamment contre la loi immigration. Et en même temps, on a mis en place des espaces de non-mixité, donc qui sont des réunions en non-mixité, que j'appelle en fait des régénérations de bonheur, qui nous permettent de lutter, parce que notre colère est légitime, elle est là, elle ne partira pas. Mais à un moment donné, il faut savoir se reposer, parce que la lutte, au bout d'un moment, elle nous épuise, nous, comme elle épuise les autres. Donc créer ce genre d'espace nous permet de nous régénérer, de faire ce qu'on appelle cet amour politique qui a très bien décrit Bell Hooks, et pour pouvoir encore plus lutter dans tous les milieux et jusqu'à la fin de toute domination et discrimination sur tous les êtres.
Merci. Donc là, on passe à Elisabeth de Transat.
Bonjour, je suis Elisabeth de Transat. Nous sommes une association de personnes trans, non-binaires et en questionnement qui accompagne les personnes dans leur démarche administrative, juridique ou médicale. Et nous organisons aussi des moments d'écoute et des activités conviviales pour se rencontrer entre nous. Je voudrais aussi remercier du coup Radio Galère de nous avoir invités et tout pour ce 8 mars, parce que je pense que c'est important de rappeler que le 8 mars, ce n'est pas juste la journée de la femme, mais c'est également la journée pour toutes les personnes sexisées, c'est-à-dire les femmes, les hommes trans et les personnes non-binaires qui sont tous et toutes victimes de sexisme au quotidien. Et du coup, voilà, merci de nous avoir invités.
Merci à toi de représenter l'association Transat. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir tous et toutes autour de ce plateau. Katia, tu représentes le collectif Adelphicité. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Bien sûr. Ça marche, c'est bon ? Oui. Alors, oui. Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Katia, je suis militante des quartiers populaires, des quartiers nord. Je viens des quartiers nord. Et nous avons créé notre association il y a un an et demi qui s'appelle Adelphicité. Et ça vient d'Adelphes. Est-ce que je dois le dire, Adelphes ?
Ben voilà, oui, tu peux expliquer un peu.
Ben oui. Donc, en fait, on cherchait un nom et on s'est dit, en fait, au-delà de toute, on va dire, humaine, fraternité, parce qu'on entend souvent ce terme fraternité, ben, il y a la sororité, fraternité, ben, au-delà de tout ça, d'un humanisme, on est tous des êtres humains, et à un moment donné, Adelphes, c'est ce qui nous regroupait toutes et tous, en fait, quand on a cherché le nom de notre association. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est des militants des Bouches-du-Rhône. On se connaissait, voilà, il y a des militants qui viennent de Gardanne, d'autres de Port-Saint-Louis, Martigues, Marseille avec moi et d'autres. Et on s'est dit, mais on se connaît, on a évalué les besoins de terrain, on travaille tous ensemble dans diverses associations, mais c'est vrai qu'on ne se fait pas beaucoup entendre, parce que justement, il y a cette invisibilisation, et notamment des femmes en particulier. Et à un moment donné, on s'est dit, mais mince, quoi, quand on travaille et qu'on fait des actions, qui de mieux que les premiers concernés pour prendre la parole avec leurs propres mots sans pour autant leur dicter leurs mots. Donc on s'est retrouvés tous ensemble, on s'est dit on va se créer en association, on va s'autogérer, nos mots ça nous appartient, il n'y a personne qui va nous dire comment nous les exprimer et on va pouvoir enfin mener nos luttes comme on l'entend. Donc c'est une forme aussi de résistance, cette association que nous avons créée. La plupart, on n'est pas fermé qu'aux femmes, hein. il y a de tout, mais la majorité dans notre association des membres sont des femmes et c'est pas pour rien qu'on l'a créé. Donc on est très contents. Aujourd'hui, là, les dernières actions qu'on a effectuées, la première, c'est qu'on s'est mis sur un travail de collectif depuis 8 mois où on a mené des réunions avec des familles de victimes, vous savez, dans les quartiers nord en particulier, mais ça concerne pas que Marseille et pas que les quartiers nord, les fusillades. Donc on est en première ligne, on est les premiers concernés et on a écrit un plan citoyen pour répondre à tous les plans qui nous sortent à chaque fois ce gouvernement d'en haut sans vouloir donner la parole encore une fois aux premiers concernés. Et en second projet, là où on est, on travaille avec des adolescents des quartiers populaires et notamment dans le 14e autour du harcèlement. Et beaucoup d'entre nous, parmi nos membres, nous avons été victimes de harcèlement d'une manière ou d'une autre dans les organisations dans lesquelles on militait à un moment donné. Et donc, ça nous tient à cœur. Donc voilà, nous sommes une association qui travaillons au plus près du terrain, avec, par, pour la population, selon les besoins, on part des colères, et de ces colères, on essaie de créer des formes de lutte ensemble. Et donc, on essaie de toucher un maximum de personnes qui sont éloignées des milieux militants, qui n'ont pas nos codes, qui n'ont pas nos mots, et qui font partie de notre société, et on travaille en particulier avec ces personnes-là. Voilà.
Ok, super. Merci beaucoup pour ces présentations. Du coup, là, ce plateau-là, on va essayer de réfléchir ensemble et de discuter un peu quant aux perspectives des luttes féministes. Déjà, bon, c'est une question très large, mais pour vous, qu'est-ce qu'une lutte féministe ? Qu'est-ce qui fait qu'une lutte est féministe, en fait ? On peut peut-être commencer, si quelqu'un a envie de prendre la parole. Ouais, Elisabeth ?
Bon, du coup, pour moi, je dirais la lutte féministe, c'est une lutte qui vise à combattre le système patriarcal qui permet aux hommes cis-hétéros de contrôler les corps de tous ceux qui sortent de cette catégorie. À Transat, nous prenons genre le droit à l'autodétermination, qui pour nous est central, et c'est le droit à disposer de son corps, que ce soit pour la question de l'IVG, de pouvoir transitionner, tout ça, de faire des démarches d'affirmation de genre, on dirait plutôt. Et voilà. Et du coup, nous pensons que ces droits-là à l'autodétermination et au droit de disposer de son corps, ce sont des droits humains auxquels nous devrions tous avoir accès, qui nous concernent tous, peu importe notre identité de genre ou notre... enfin, ces questions de... Voilà, on est tous concernés par... On est tous concernés par ça, il n'y a pas besoin d'être trans pour que ça nous concerne.
Katia, je te vois acquiescer.
Ah, mais complètement, bien sûr. Tous les mots que tu viens de dire, pardon, tous les mots que tu viens de dire, bien sûr, nous parlent. Alors nous, qu'est-ce que c'est une lutte féministe ? C'est quand il y a un combat derrière qui veut qu'on se batte pour exister par nous-mêmes, notre corps, notre façon de penser, nos mots. Tout ce qui concerne en fait l'être humain et qui est remis en question par rapport à ce qu'on est, notre identité. Donc c'est à chaque fois une lutte pour exister en fait, pour parler, pour dire, pour se dire on est là, je suis là, j'existe. Et en fait on se rend compte qu'à travers toutes les luttes qu'on a pu avoir et féministes au final, dans le sens où quand on se bat au travail pour une égalité salariale, c'est pas normal. Il y a une différence, une discrimination entre les hommes et les femmes aujourd'hui en termes de salaire. Quand on se bat parce que on nous vole nos idées, notre travail, et on les prend généralement. Les femmes, elles sont avec beaucoup d'idées, beaucoup de travail, mais elles sont toujours invisibilisées. Donc, on nous prend notre travail, et ça, c'est encore une lutte pour dire, mais non, ça, c'est le mien de travail. Donc, à un moment donné, mince quoi, je vais pas lutter pour dire que ce travail est le mien, m'appartient, et on nous le vole. Je vous parle d'expérience vraiment que j'ai entendue dans toutes les conversations qu'on a pu avoir ici et là à travers nos luttes de terrain et les témoignages. Parle de témoignage, je suis travailleuse sociale, donc je fais beaucoup avec le témoignage. Et à chaque fois que je réponds à une question, je pense à quelqu'un en particulier, je ne sais pas si vous voyez. Mais en fait, dans tous les domaines, on voit qu'il y a à chaque fois une bataille à mener pour se faire entendre. Et ça, ce n'est pas normal de se battre encore aujourd'hui, en 2024, pour se faire entendre, exister comme on est, sans qu'on nous juge de ce que nous sommes. Nous sommes ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Voilà ce que c'est une lutte féministe. Donc c'est très très large et ça peut toucher diverses thématiques, que ce soit liées au logement, à la santé, à l'emploi, à la culture. Vous allez dans toutes les thématiques qui peuvent exister de la vie quotidienne, en fait, on a toujours des discriminations et généralement, c'est les femmes racisées, les femmes transgenres, les hommes transgenres, les discriminés, les personnes qui sont mises en minorité, on appelle ça les minorités, alors qu'on n'est pas des minorités, on fait partie de la société, on est ce qu'on est. On ne va pas nous mettre dans un moule pour répondre à, on va dire, un schéma patriarcale au final d'une forme de pensée de ce que devrait être un homme, de ce que devrait être une femme, de comment devrait se comporter un jeune. On a tous ces cliché à casser aussi. Et donc, moi, je suis une enfant des quartiers populaires. Je suis racisée parce que je suis d'origine algérienne. Là, je vous parle quand même des discriminations qui se cumulent les unes avec les autres. Hein. Je suis une femme. Voilà, donc tout ça fait qu'on a eu des freins dans notre vie. Et ça, on le constate, le racisme, le fait de ne pas être comme les autres, entre guillemets. Et ça, c'est terrible pour nous. Donc, il y a un devoir de lutter. Parce que si on ne lutte pas, ben, on est écrasé. Et on lutte constamment contre, justement, tout cet écrasement qui est fait contre nous parce qu'on ne répond pas à une norme donnée. Il n'y a pas de norme. On est ce qu'on est. On forme une société ensemble. Et c'est comme ça qu'on est fort, en fait. On est fort ensemble avec nos différences.
Merci. Lily, tu as envie d'intervenir ?
Non, je pense qu'après, tout a été dit. Moi, je dirais que pour moi, en fait, Une lutte féministe, c'est un combat, en fait, pour qu'on puisse avoir un changement radical, politique et social, en fait, du système dominant qui est en place. Parce que, ça a été dit, hein, on est dans une société qui est sur un schéma dominant hétéronormé, cisgenre, patriarcal, et qui fait subir des violences et qui domine tout ce qui n'est pas perçu comme homme blanc, cis, hétéro. Donc, pour moi, c'est ça, une lutte féministe. Après, une lutte devient féministe aussi par essence, je pense, quand on arrive à, justement à voir toutes les discriminations, quand on arrive à entendre toutes les expériences, qui fait qu'on va arriver à identifier les dominations co-substantielles. Donc pour moi, la lutte, elle est féministe quand on va parler de négrophobie, quand on va parler d'islamophobie, d'antisémitisme, de transphobie, de transmisogynie, donc de validisme et de classisme. Et c'est ça que pour moi qui est une lutte féministe, parce que tout est au centre de tout, c'est le schéma dominant, donc c'est ce système hétéro, blanc-triarcal, comme je dis, qui domine. Et pour moi, la lutte, c'est le combat, en fait, pour renverser cet ordre et faire un contre-pouvoir.
Super. Mais toi, justement, tu es dans le collectif afro-féministe. Est-ce que tu pourrais nous parler des spécificités de l'afroféminisme et à quoi il répond et à quel constat il répond?
Alors du coup, oui, alors l'afroféminisme, c'est un collectif afroféministe, moi je dis collectif queer afroféministe. En fait, l'afroféminisme, c'est un combat politique parce que c'est aussi un enjeu parce que quand on est une personne noire, donc femme et minorité de genre, on est face à la misogynie noire. Donc la misogynie noire, on peut voir ça comme du racisme genré, ou bien on peut voir ça comme du sexisme raciste à voir. Donc on est confronté, donc on est à la croisée de différentes discriminations. Et donc en fait, pour moi, les luttes afroféministes, c'est forcément antiraciste. Donc c'est sexisme et racisme, anticolonial, anti-impérialiste. Moi, je parle évidemment de mon expérience. Je suis une afro-caribéenne, je suis guadeloupéenne, donc je viens d'une colonie départementalisée. Donc évidemment, dans ma lutte, il y a la misogynie noire, il y a l'anticolonialisme, il y a le racisme environnemental contre lequel je me bats, puisque mes parents étaient totalement victimes du chlordécone également. Et donc évidemment, toute discrimination pour femmes et minorités de genre.
Merci.
Je t'en prie.
Anna ?
Ouais. Désolée. Du coup, oui, moi, en fait, ce que je trouve intéressant, là, ce qui ressort un peu de tout ce que vous dites, en fait, c'est qu'on voit bien, en fait, qu'est-ce que le féministe, en tout cas, n'est pas, et c'est ce que voudrait nous vendre à la fois le gouvernement et l'extrême droite comme du féminisme, c'est-à-dire le féminisme réactionnaire, le fémonationalisme ou même le féminisme libéral. Bon, voilà, on voit bien, en fait, aujourd'hui, que le féminisme, il est instrumentalisé à des fins à la fois racistes et répressives. Voilà, sur les plateaux d'avant, par exemple, on a parlé de la loi immigration qui est aujourd'hui instrumentalisée, enfin, qui est encore un outil du gouvernement pour instrumentaliser la cause des femmes, pour toujours plus développer son agenda raciste. Je pourrais parler aussi de l'interdiction de l'abaya et plein d'autres encore, mais bon, je pense que si je faisais tout le catalogue, demain matin, on serait peut-être encore là. Et puis aussi, je voulais parler du féminisme libéral, parce que voilà, là, l'actualité un peu de la semaine, ça a été l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution, voilà, qui a été un peu l'étendard progressiste du gouvernement à l'approche des européennes pour se porter le nouveau rempart face à l'extrême droite, alors qu'en fait ça ne change rien à l'effectivité du droit en France, et qu'aujourd'hui, si le droit il est menacé, c'est par les coupes budgétaires et les politiques néolibérales du gouvernement. Voilà, il y a 17% de la population qui est obligée de changer de département pour trouver un centre ouvert. Il y a 130 centres qui ont fermé ces 15 dernières années. Donc c'est pour ça en fait que nous, à Du Pain et des Roses, on veut vraiment défendre un féminisme anti-capitaliste, parce qu'on pense qu'en fait, on ne pourra pas mettre fin aux violences patriarcales sous le système capitaliste. Et c'est vraiment en fait, voilà, une donnée de laquelle on ne peut pas... Comment dire, on ne peut pas se passer.
Merci beaucoup. Tu veux enchaîner ?
Non, moi j'avais un peu une question pour Elisabeth. Aussi, on est dans un contexte où on nous parle de la menace transgenre. Je crois que c'était un titre de Valeur Actuelle. Voilà, genre comme une peur, la peur woke. Justement, on nous taxe de féminisme radical, ou c'est nous, on se rapproprie ce terme, mais en tout cas, comme si on était une minorité, comment vous vous placez un peu à Transat par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui?
En fait, le truc, c'est que ouais, on est un peu dans une phase où il y a un peu... Enfin, ça a commencé il y a déjà plusieurs années aux États-Unis, au Royaume-Uni. Il y a cette panique morale sur la question des femmes trans dans l'espace public, qui sont souvent présentées comme présentées comme une menace pour les femmes cis. Et le résultat de tout ça, c'est que non seulement ça, en fait, c'est faux, c'est basé sur des idées qui sont pas, c'est pas basé sur des vraies observations. Enfin, les femmes trans ne sont pas plus enclins à être agresseuses que qui que ce soit d'autre. Et cependant, par contre, elles sont assez susceptibles d'être victimes, et c'est du coup le côté vraiment pervers de cette panique morale, c'est qu'en fait c'est utilisé pour exclure les femmes trans de milieux comme que ce soit les refuges pour les personnes victimes de violences au sein du couple, et genre tous ces espaces là qui sont dédiés aux victimes. On essaie d'exclure les femmes trans qui en ont vraiment, pour qui il y a vraiment un besoin, et du coup c'est les mettre en danger sur deux aspects. Non seulement ça encourage, ça les présente comme une menace, et du coup ça encourage les agressions contre elles, mais en plus elles ne sont plus protégées, du coup on n'a plus accès aux espaces dont on a vraiment besoin. Et d'ailleurs ça ne menace pas que les personnes trans. D'ailleurs, c'est un peu ça que j'aime, quelque chose que j'aimerais c'est que cette panique morale, ça crée un climat de paranoïa autour de, voilà, genre des personnes trans dans l'espace public, qui forcément va se retourner contre beaucoup de femmes cis qui ne sont pas conformes dans le genre, qui ont un aspect qui est plutôt masculin parce qu'elles ont la mâchoire carrée ou un peu de barbe ou tout ça. Et d'ailleurs, aussi beaucoup, il y a également une dimension raciste souvent, parce que surtout aux États-Unis, il y a des études qui ont été faites, les femmes noires sont souvent perçues comme plus masculines que les femmes blanches, et du coup ça fait que du coup il y a de plus en plus d'agressions de femmes cis qui sont perçues comme masculines, soit des femmes noires, des lesbiennes butch, ou des femmes qui sont juste un peu qui ont une apparence un peu masculine entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment un danger qui nous concerne tous, et qui, voilà, ça ne se limite pas qu'aux personnes trans. Et je pense que c'est important de le reconnaître et de se saisir de ces questions-là, parce que en fait, on est toutes à risque.
Là, j'ai l'impression que du coup, ce qu'on voit un peu, c'est
à quel point la lutte féministe est indissociable des luttes antiracistes pour le droit des personnes trans ou des luttes antifascistes contre l'extrême droite, t'en parlais Anna. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un contexte en fait où un contexte qui est très réactionnaire avec des discours racistes de plus en plus décomplexés, des attaques contre le droit des personnes LGBT, etc. Et du coup, quel rôle peut ou doit jouer la lutte féministe aujourd'hui et en termes de perspective et de stratégie, comment est-ce qu'on peut dans la lutte féministe, répondre à ces enjeux-là aujourd'hui? Vous, comment, quel mode d'action vous développez par rapport à ça? Comment est-ce que vous projetez dans ces luttes-là? C'est peut-être un peu compliqué comme question.
pour moi, de toute façon, les luttes féministes, de toute façon, elles nous permettent de repenser tous les systèmes de domination qu'il y a sur tous les individus. Moi, je pense que le rôle de la lutte féministe, c'est que avant qu'on arrive, parce qu'évidemment, il faut avoir l'espoir qu'on enlève toute discrimination et que tout soit libre. Mais avant ça, je pense que les luttes sont importantes parce qu'elles nous permettent de mener des actions et d'avoir un certain impact en faisant déjà souffrir le moins ceux qui souffrent le plus. Enfin, c'est eux qui souffrent le plus. Et justement d'éviter. Tout le monde parle souvent de cette espèce de plafond de verre qui existe, etc. Mais par opposition, il y a l'expression du plancher coulant. Et moi, je pense que les luttes féministes, en fait, elles doivent en fait se prendre soin de toutes les personnes qui sont dans ce plancher coulant. Ça veut dire qu'il faut faire davantage en fait d'actions pour le bien-être au commun, des actions pour protéger des violences, des actions pour avoir plus d'accès pour tous pour différentes raisons. Et ne donc alimenter ces actions et ne pas alimenter le système dominant. Donc pour moi, les luttes féministes, en fait, elles servent à ça et à continuer à faire en sorte qu'il y ait toujours des chances d'ouverture et d'avancer pour que le système change.
Ouais, du coup, pour prolonger un peu ce que tu dis, moi je suis complètement d'accord. Je pense qu'en fait, le féminisme, il doit pousser aujourd'hui en fait à l'alliance de toutes les personnes qui subissent les oppressions et même plus globalement toutes les personnes qui subissent l'exploitation, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent. Surtout que voilà, aujourd'hui, les femmes en fait, on représente la moitié de la classe travailleuse, mais on est aussi du coup les travailleuses les plus précaires. Et qu'en fait, c'est pour ça que le féminisme, c'est un outil fou pour pouvoir politiser cette question du travail. Et que voilà, en fait, comme je disais tout à l'heure, pour se libérer du patriarcat, on va forcément devoir passer par la case libération aussi du capitalisme. Donc bien que l'un n'entraîne pas mécaniquement la fin de l'autre, mais que voilà, du coup, en fait, c'est le mouvement féministe, il doit aujourd'hui, je pense en tout cas, lutter pour voilà, cette unité en fait, au sein de toutes ces personnes qui ont les mêmes intérêts. Et donc voilà, c'est ce que je disais, en fait, faire tomber ce système capitaliste et politiser cette question du travail, parce qu'on voit bien qu'en fait l'articulation des oppressions dans le travail, donc voilà, le racisme, le féminisme, ça démontre bien en fait qu'on ne peut pas se limiter à des batailles sur le terrain économique. Voilà, par exemple, si on s'appelle du pain et des roses, c'est parce qu'on pense qu'il faut lutter, donc oui, forcément, par exemple, pour des augmentations de salaire, donc le pain, la subsistance, mais aussi sur des revendications très politiques, donc voilà, tout ce qui concerne les droits démocratiques et des conditions de vie, de travail, la liberté de s'organiser, etc.
Pour continuer dans ce que tu viens de dire, ça marche ou pas? Oui. Ouais. C'est le jeune. Oui. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis une travailleuse sociale et on travaille avec des personnes qui ne sont pas forcément politisées ou encore militants. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire aller au-delà de ce que nous sommes, nous, entre militants, parce qu'on se comprend rien qu'avec des mots. Hein, on a nos codes, on a nos manières de faire. C'est d'aller dans la vraie vie, entre guillemets. Quand je dis la vraie vie, j'espère que je ne dérange personne dans ce terme-là, mais il faut savoir que la société dans son ensemble, parfois, ne vient pas dans nos milieux militants parce qu'ils se sentent un peu déconnectés par rapport à notre vision du monde, notre vision, nos mots. Et je le ressens parce qu'ils se disent on ne comprend pas trop ce que vous dites, on ne sait pas trop où vous nous amenez, ils ont un peu peur, etc. Donc il faut aller aussi les chercher, ces personnes, parce que c'est avec elles qu'on forme la société, c'est avec elles qu'il faut travailler. Donc on doit leur quand je dis à l'heure, c'est je parle de l'extrême droite, à tous ces réactionnaires et ces personnes qui divisent la société, on leur laisse aucun champ possible de mettre leur haine parmi nous. C'est-à-dire qu'il faut investir tous les terrains possibles. Et il faut adapter, bien sûr, notre façon de dire sans lâcher nos convictions, sans lâcher notre vision de ce monde parce qu'il est juste. Non, mais il faut l'adapter pour pouvoir faire en sorte qu'on soit unis déjà, nous, toutes et tous, c'est-à-dire dans les discriminations que nous vivons, et qu'on puisse engranger le maximum de monde. Soit clair, c'est un bras de fer. En face, ils ont peut-être l'argent, ils ont peut-être les médias. Nous, on est avec la société, on est la base, on est avec le plancher. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Et nous sommes bien plus nombreux que eux. Et à partir de là, nous devons engendrer un maximum d'unité entre nous, d'aller les chercher pour pouvoir les conscientiser. Et la méthode que nous utilisons, nous, à Delphicité, c'est la méthode, on n'a rien à inventer, c'est l'auto-organisation. On part des colères et on amène petit à petit à l'explication d'un système. Mais si on va directement, oui, c'est le capitalisme et tout ça, imaginez en face, qui n'ont pas nos codes, qui n'ont pas notre lecture, qui n'ont pas lu les livres que nous avons lus, on risque de les, comment dire, de leur faire un peu peur. Donc, à un moment donné, donc, il faut aller petit à petit pour les amener vers cette vision justement de la société dominante, dominatrice, qui nous écrase, qui nous met en compétition les uns contre les autres. Et moi, je vois que ça, ne rien lâcher. Je sais que la lutte est dure, je le sais, on est fatigué, on a nos vies de famille, on a nos vies personnelles, on a souvent, peut-être qu'on se dit, c'est un éternel recommencement. Mais c'est ça, en fait, de vivre, c'est lutter. Si on ne lutte pas et qu'on laisse tomber, ben, on perd un bout de terrain, c'est eux qui le prennent. Et donc, ne rien lâcher, être tous ensemble, savoir avec qui on s'allie, où sont nos ennemis, où sont nos alliés possibles, même si on ne pense pas tous et toutes de la même manière à 100%, il ne faudrait pas qu'on se ferme entre nous, en fait. Et voilà. Et luttons et gagnons et ne lâchons rien.
Il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais genre, y a beaucoup qui a été dit déjà, mais aussi, je pense que une des choses qui est importante, je trouve, dans la question du rôle de nos luttes, c'est également pour mobiliser, ça passe également pas seulement par l'idée de déconstruire le système qui est en face, c'est également proposer de construire une alternative en face, de construire une nouvelle société sur des principes d'égalité, du respect de l'autodétermination, du droit à disposer de son corps libérer de toutes ces formes d'oppression. Ça passe également par le mot m'échappe.
Créer des alternatives, des alternatives souhaitables et désirables, proposer d'autres récits, d'autres narratifs.
Ouais. D'être un peu proactive, c'est ça. C'était ça le mot. Mais ouais. Et du coup, ça passe. Parce que détruire ce système patriarcal qu'on déteste tous, c'est bien. Lui casser la gueule au patriarcat, moi je suis tout pour, mais il faut également proposer quelque chose en face. Et je pense que vraiment, c'est par là que c'est comme ça qu'on peut motiver les gens. Voilà,
l'éducation populaire, en fait. C'est de l'éducation populaire à chaque fois, et le faire avec, par et pour. Nous, dans notre association, par exemple, on fait en sorte de mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les personnes, les premières concernées, en première ligne. On ne fait pas leur place. On aide, on peut aider, mais on n'est pas dans le paternalisme. On n'est pas là à dire « je connais mieux que toi, je vais t'apprendre comment on fait ». Hein, on a souvent ça, hein, la personne qui sait tout, qui connaît tout, qui a tout lu, qui a toutes ses expériences et qui va venir nous apprendre la vie. À un moment donné, il faut savoir être aussi avec l'autre, dans un rapport d'égalité. Et en vrai, ce qu'on veut, en fait, c'est quelque chose de simple. On veut juste que chacun puisse s'épanouir, être ce qu'il est, sans avoir honte, de pouvoir jouir de tous ses droits comme tout le monde. Et comment notre parole a pu être, à un moment donné, vue comme autre chose? Comment ils ont pu dévoyer nos luttes, nos mots, nos revendications? Il y a ce truc dominant, et il faudra le casser. Je suis d'accord avec toi, il faudra le casser, et ça fait partie de la lutte, et on y arrivera que si nous sommes tous ensemble.
Anna, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais rebondir sur un peu tout ce qui a été dit, parce qu'il y avait des éléments vraiment très intéressants, notamment cette question de l'unité. En fait, moi, je pense de ne pas tout faire pour justement forger cette unité, c'est à la fois une faute morale, mais c'est avant tout une faute politique en fait, et stratégique. Par exemple, lutter pour les droits reproductifs ici en Hexagone, mais rien faire contre l'incitation à la stérilisation à Mayotte, ou lutter contre les violences sexuelles en France, mais rien dire sur les viols systématiques commis par l'armée coloniale israélienne à Gaza aujourd'hui. En fait, c'est pas seulement une faute morale, c'est aussi une faute stratégique et politique, et qu'il n'y a pas plus grosse faute morale en fait, que de ne pas tout faire pour l'emporter. Et aussi rebondir sur cette question de l'auto-organisation, nous aussi c'est quelque chose qu'on défend beaucoup, l'auto-organisation. Notamment quand je pense par exemple aux luttes des grèves, nous on fait tout pour que les grévistes ils s'organisent par eux-mêmes à la base, et qu'on s'inscrit beaucoup du coup généralement en lutte contre les bureaucraties syndicales, notamment la réforme des retraites. Nous justement depuis Des Pins et Des Roses, on menait vraiment un combat contre l'intersyndicale qui n'a rien fait pour proposer un plan de bataille à la hauteur, qui n'a rien fait pour élargir les revendications qui auraient permis d'entraîner en fait beaucoup plus largement dans la grève et dans la lutte, et en premier lieu en fait les personnes les plus précaires, donc les femmes, les personnes racisées, pour qui oui en fait le plan de bataille proposé c'était pas quelque chose qui allait les entraîner, parce que par exemple une personne qui arrive en France à la quarantaine et donc qui commence à travailler à 40 ans, elle n'avait aucun intérêt à perdre de l'argent, à faire des petites journées de grève isolées qui n'allaient rien... Enfin, elle savait qu'en fait... Parce que les gens, ils sont très lucides, ils savaient en fait que comme ça, ils n'allaient rien emporter. Et que du coup... parce que du coup, avec cette réforme-là, dans tous les cas, cette personne, elle n'aurait pas eu ses annuités à la fin. Et donc, c'est pour ça que nous, on a tout fait pour proposer justement une alternative à la direction de ce mouvement qui était la réforme des retraites, pour pouvoir entraîner largement et pour l'emporter au final. Donc c'est pour ça qu'aussi nous on aime vraiment beaucoup poser la question de la stratégie, parce qu'en fait in fine c'est elle qui est complètement centrale et qui décide de tout.
Ouais, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est quoi le rôle du... Enfin, tout ce qui a été dit, c'est très intéressant, mais je pense aussi que ce qu'il faut dire, c'est que, comme tu disais, Elisabeth, c'est proposer des stratégies alternatives. Mais je pense aussi que toutes les luttes et les actions qui sont faites, elles servent quand même à nourrir en fait une histoire commune qu'on réécrit. Du coup, on est en train de refaire cet imaginaire collectif. Moi, en tant que femme noire, j'aurais bien aimé, il y a 20 ans, entendre parler de la charge raciale, j'aurais bien aimé avoir des livres qui me disent que mes cheveux, ils sont bien comme ils sont, que je n'ai pas besoin de lisser. Donc effectivement, on n'a pas encore tout changé, mais les luttes inscrivent une histoire commune, font qu'on a un vécu commun, et qui font qu'on inscrit quelque chose, parce que l'histoire, en fait, il faut oublier que ce sont des événements et des actions mis bout à bout. Donc pour moi, le rôle en fait, central des luttes, il est là. Même si on n'a pas encore tout brûlé, ça va venir, mais en attendant, on crée une nouvelle histoire en fait pour nous et pour les autres après nous.
Super, merci. Mais je crois qu'on arrive au bout des 45 minutes. Est-ce que vous avez quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Toi, tu as une dernière question, Yama?
Non, je me disais juste, peut-être vous avez, des actions qui arrivent, des calendriers, des endroits où on peut vous retrouver. Si vous avez envie de nous partager ça peut être chouette.
Alors nous, le prochain rendez-vous, ça va être, on est en train de travailler avec des jeunes des quartiers sur une pièce de théâtre autour du harcèlement, comme je vous ai dit. On va le jouer dans un théâtre. On avait la possibilité de le faire jouer sur le théâtre du Merlan. C'est vrai que c'est un beau théâtre, il est national. Mais je voulais vraiment faire sortir ces enfants des quartiers nord et le pouvoir le jouer, par exemple, dans le centre de la ville. Donc sachez que là, je fais un appel. On en a deux qui jouent du piano, mais qui n'ont pas un piano. C'est vrai que pour pouvoir jouer du piano, ben, il faudrait un instrument. Et ils jouent, ils sont autodidactes, mais un piano, ça coûte cher. Et donc, aujourd'hui, on cherche un piano pour ces jeunes. Et on est en train de leur donner donc, des cours de chant, de danse. On va faire une petite comédie musicale qu'on va donc, interpréter dans un théâtre dans le centre de la ville. On n'a pas encore le théâtre, mais vous serez invités le moment venu et suivez-nous sur notre page Adelphicité. Vous verrez quand est-ce que ce spectacle aura lieu. Ils ont des choses à dire, ces gamins, avec leurs propres mots. On va les aider à construire cette pièce de théâtre parce que ça va être une co-construction. Et on leur a dit qu'on va puiser de vos mots parce que quand on les a rencontrés, je vous promets, ils nous disaient « Madame, je ne sais rien faire ». Donc en fait, ils ont une faible estime de soi. Et nous, dans notre association, on essaie vraiment de leur donner la place nécessaire d'expression à travers la culture, l'art, ici le théâtre, la musique, le chant. Et nous nous battons pour avoir le premier, même si c'est un peu connoté parce qu'on préférait académie, mais bon, conservatoire des arts et des musiques dans les quartiers nord de Marseille. Mais quand on dit le premier conservatoire, il faut que ce soit en premier lieu, pour les enfants des quartiers populaires, que ce soit clair, pas juste que ce soit dans les quartiers nord et qu'après on a une sélection parmi 80% ou un peu plus où c'est pas des personnes qui habitent dans ces quartiers populaires. Donc voilà, on se bat un peu pour tout ça. C'est aussi des luttes féministes au final parce que c'est des luttes antiracistes et anti-discrimination que nous connaissons trop bien les gens des quartiers populaires. Hein, nous sommes souvent humiliés, écrasés, mis de côté. Et ça, c'est plus tolérable. Il faut leur donner l'envie de perspectives d'avenir plus larges, élargir les possibles dans leur tête. Ils ne sont pas des moins que rien. Ils ont des talents, ils ont des choses à dire, à nous apprendre. Et on n'est pas des sous-citoyens, quoi. Et voilà notre travail et voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et une dernière chose, les membres de notre association se trouvent actuellement donc, au Vieux-Port. Je tenais, s'ils m'écoutent, à leur dire merci d'avoir mis en place ce violentomètre sur la table. Et donc on est dans l'éducation populaire, on a créé un violentomètre géant et on fait des jeux, à travers le jeu on apprend ce que sont les violences sexistes et sexuelles et pour lesquelles nous battons. Contre, hein, bien évidemment. Et voilà, donc un petit coucou aux adhérents d'Adelphicité.
Un grand merci. Oui, si vous voulez, si vous avez un programme à partager ou comment vous retrouver, comment vous suivre.
Du coup, avec Transat, on a un stand à l'Azov aussi que je vous invite à venir voir. Les bénévoles sont très très gentils. Voilà. Et aussi, on a un Instagram, on a un compte Insta, Association Transat sur Instagram, vous pouvez nous trouver. On organise plein d'événements, je ne vais pas tous les énumérer, mais je vais parler principalement de. Je pense celui qui est vraiment l'un des. Un qui pourrait intéresser certaines personnes. On fait tous les premiers samedis du mois, à la base, on organise une permanence d'accueil en non-mixité pour les personnes trans, non-binaires et en questionnement. Du coup. Si jamais vous vous sentez concerné, si vous vous posez des questions sur votre genre, si vous cherchez, si vous vous cherchez et tout, et que vous cherchez un endroit où en discuter, en parler, qui ne sera pas dans le jugement ou voilà, c'est voilà genre à 15h le premier samedi du mois à la base. Et franchement, voilà, c'est...
C'est super. Merci beaucoup. Lily, tu nous as parlé de rencontres en non-mixité. Est-ce que
oui,
tu as la prochaine?
Oui, voilà. Alors, donc, c'est le 20 mars. Alors, sachez que tous les mois au centre LGBT, donc, on a mis en place des espaces de soins. Comme j'ai dit, c'est une bombe de douceur que l'on s'offre. Et en fait, ces enclaves de régénération du bonheur, comme j'aime dire, ce sont ces espaces de soins en fait, qui vont nous permettre de développer l'amour politique. Et donc, ce sont des rencontres qui s'appellent About Love, d'ailleurs, parce que, qui est totalement inspiré de Bell Hooks. Et pour moi, ces espaces, ils sont nécessaires afin qu'on continue à alimenter notre intranquillité politique et que notre colère ne nous explose pas en fait à la gueule, quoi, pour être honnête. Et sinon, Afrofem est activement dans le combat qui est mené, entre autres, avec Marseille contre Darmanin. Pour tout ce qui est fait en ce moment contre la loi agrimation, toutes les actions qui sont faites, autant dans la rue, autant que dans les quartiers populaires, autant qu'avec les personnes premièrement impactées, ça veut dire on parle d'actions avec des avocats, des juristes pour les personnes qui sont directement impactées par cette loi. Donc en ce moment, c'est un peu l'accompagnement en fait, celui qui nous prend du temps, et après les espaces en non-mixité.
Allô.
Hop, 1, 2, 1, 2. Ouais, du coup, moi aussi, très original, vous pouvez nous retrouver sur l'Azof. Vous vous mettez à l'abri sous l'ombrière, prendre un café, une tisane, on a tout ce qu'il faut. Je vous invite aussi à venir défiler. C'est vrai que là, du coup, on n'en a pas parlé, mais à la manifestation, nous, on défilera du coup aux couleurs de la Palestine, dans un cortège voilà, révolutionnaire et anti-impérialiste. Sinon, vous pouvez nous retrouver pareil sur Instagram, du pain et des roses, Révolution Permanente Marseille. Et comme je disais voilà, au début de l'émission, aussi sur les internets, notre journal Révolution Permanente, qui est en libre accès avec la section genre et sexualité, qui a, voilà, avec une équipe de rédactrices au top, dont je fais partie. Donc, qui m'envoie aussi des fleurs, il n'y a pas de raison après tout. Donc voilà, avec des articles hyper quali sur à la fois, voilà, genre, on documente beaucoup en ce moment la situation en Palestine, mais bien d'autres. Donc ouais. N'hésitez pas à consulter.
Allô ?
Bon, je crois.
Non, c'est pas bon. Ouais, c'est bon. Non, c'est Lily. En fait, moi, j'ai oublié de dire, parce que sur Instagram, c'est Afrofem Marseille. Et nos rencontres se font au centre LGBT une fois par mois. Voilà.
Super. Ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. C'était un plaisir de vous accueillir. Et merci d'avoir porté des voix et de vous visibiliser. Le public est en folie. Non, mais c'est vraiment important de vous donner la parole et de pouvoir visibiliser vos luttes et aussi de permettre aux personnes qui nous écoutent de pouvoir rejoindre ces différents collectifs. Ben, comme ça a été dit, j'enjoins tout le monde à rejoindre la ZOF.
Ouais.
Parapluie, petit protection, mouillez-vous. Mais en tout cas, on se retrouve sur le Vieux-Port et puis le départ de la manifestation est prévu à 18h. Voilà. Là, on va passer à un petit intermède musical et puis après, on appelle la ZOF en direct. Ok. Bon, en tout cas, petite musique.
Moi, je vais aller les rejoindre. Nous on fait la révolution. Nous on fait la vaisselle. Nous on fait la révolution.
En Isabel Darden, a ver si sentís. No tenés que hablar si al final no decís. El ompa del coco te lo revendí. Jijiji, fragancia black tea. Camino dejando perfume de mí. No vas a dejarme nunca más así. Quiero todo eso que no me decís. Terrible Gil. Si te ilusionaste, pri perdiste. Este es el momento de los sadis. Me olvidé del campo en las ciudades. Talk to me, watchy. What the fucking bullshit con vos. Y todo bien con el hip hop. Sácate la ropa, no perdamos el tiempo que recorta. Partime la boca, la película se agota. Acá te espero en cuatro chorreando media gota. Ya sabes que estoy re loca y se me nota. Champi campeonato, a ver cuál es la más bebota. Lo tuyo es gol en contra y lo mío friki, 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 dona. Dale friki, dona. Ahora manda pura guacha. No me vas a correr con nada. Full piquete y goma cremada. A la final estamos todas coronadas. Ahora manda pura guacha. No me vas a correr con nada. va pa'l piso. Glitcheado sobre el suelo se deshizo. Ahora nadie quiere compromiso. Miedo al tiempo y todos sus hechizos.
Chip más chill.
Se hace el ninja, le presento una botella. Cortada al pico, impuesto a la riqueza pa' los ricos. Libertad para milagros, cerra el pico. En el mundo todo preso.